policière. Ce différend s'ajoute à bien d'autres. Fin 2018, la pire crise depuis la dernière guerre éclate. Les troupes de l'ONU doivent sécuriser la ligne bleue qui sépare les deux pays. L'armée israélienne a découvert des tunnels visiblement creusés par le Hezbollah qui mènent vers son territoire. Des engins israéliens coulent du béton dans les tunnels pour les rendre inutilisables. Du côté libanais, de jeunes hommes munis de drapeaux du Hezbollah observent l'opération. La milice a continué à entreposer des armes ici, malgré une résolution de l'ONU interdisant cette pratique. Aujourd'hui, le Liban n'a toujours pas reconnu l'existence d'Israël. Il n'y a donc pas de frontière séparant les deux pays. La ligne bleue n'est qu'une solution provisoire. Autre point litigieux, les fermes de Shebaa, un territoire annexé par Israël mais revendiqué par le Liban. C'est juste à côté, à Metula, que les tunnels du Hezbollah ont été découverts. Les ennemis d'Israël ont régulièrement tenté d'utiliser des tunnels pour entrer sur le territoire de l'État hébreu. Le Hezbollah depuis le Liban, le Hamas depuis la bande de Gaza. Tel Aviv, à 150 km au sud de la frontière avec le Liban. Aujourd'hui, la plus grande ville d'Israël est à la portée de l'arsenal de missiles du Hezbollah. Le centre d'opération des forces armées est donc profondément enfoui sous le quartier général. Les Israéliens voient le Hezbollah dans un contexte stratégique plus large. Pour eux, la milice chiite est avant tout un agent au service des Iraniens. Les enfants sont poussés dès leur plus jeune âge à vénérer ceux qu'on considère comme des martyrs. Au sein des scouts d'Al-Mahdi, des petits de 8 ans sont préparés à la guerre. Leur bandeau porte l'inscription « À ton service, ô Hussein ». Hussein est l'un des deux principaux imams de l'islam chiite. Les scouts doivent s'inspirer de son histoire pour perpétuer le combat contre les ennemis du Hezbollah. Le chant commémore le décès d'Hussein, mort en martyr de sa foi.
Les Iraniens ont toujours été les principaux argentiers du Hezbollah. Mais l'organisation a diversifié son portefeuille il y a des années déjà. Et elle dispose aujourd'hui de nombreuses sources de revenus. Il y a beaucoup de dons émanant de riches hommes d'affaires chiites, sympathisants du mouvement, et à plus petite échelle, de la base du parti. Mais il a aussi le soutien de différents réseaux d'affaires de par le monde. Certains sont légaux, d'autres non, mais tous fournissent des fonds qui alimentent les caisses du Hezbollah.
Le Hezbollah est de plus en plus puissant. Il modifie l'équilibre confessionnel au profit des chiites. Les sunnites, souvent plus favorisés sur le plan économique, craignent de perdre leur influence politique dans un pays où encore aujourd'hui, le poste de premier ministre est confié à un sunnite. L'actuel premier ministre, Saad Hariri, a longtemps espéré pouvoir contenir l'ascension du Hezbollah. Comme avant lui, son père Rafik Hariri, ici sur une affiche commune, il essaie d'unir les Libanais sous la houlette des sunnites. Pour y parvenir, il est prêt à dialoguer avec le Hezbollah. Milliardaire, mania de l'immobilier, il possède les nationalités libanaises, saoudiennes et françaises. Il s'efforce de reprendre le flambeau de son père, mort dans un attentat. L'Arabie saoudite, qui s'érige en protectrice des sunnites, voit les tentatives de rapprochement avec les chiites d'un mauvais œil. Depuis longtemps, les Saoudiens poussent Saïd Hariri, le fils, à accentuer la pression sur le Hezbollah, ne serait-ce qu'en raison de ses liens avec l'Iran. Saïd Hariri ne peut ni ne veut réduire le pouvoir du Hezbollah. En 2017, lors d'une visite officielle dans la capitale saoudienne Riyad, il crée la surprise. Il annonce sa démission dans un communiqué en contradiction totale avec la politique qu'il a menée jusqu'alors. Hariri a-t-il été forcé à démissionner? Le flou subsiste. En tout cas, il ne peut quitter le royaume saoudien qu'après l'intervention d'Emmanuel Macron un mois plus tard. De retour au Liban, il annule sa démission. Ces manœuvres ne font que renforcer le Hezbollah. Quelques mois plus tard, le Parti de Dieu sort vainqueur des élections législatives. Il obtient pour la première fois deux ministères dans un gouvernement dirigé par Hariri.
S'il y avait une nouvelle guerre, le Liban serait très vraisemblablement rayé de la carte. Mais Israël serait lui aussi frappé comme il ne l'a jamais été depuis 1948. Tout l'arsenal dont dispose le Hezbollah mettrait l'État hébreu totalement à l'arrêt. Les avions civils seraient cloués au sol, les navires commerciaux n'accosteraient plus, les gens seraient reclus dans des bunkers, personne n'irait à l'université, à l'école, ni au travail pendant toute la durée du conflit. Cette perspective a de quoi calmer n'importe quel premier ministre israélien, mais aussi le Hezbollah.
Nous connaissons les plans du Hezbollah. Nous savons qu'ils disposent d'armes précises à forte puissance explosive qui sont capables de dévaster nos villes en faisant un grand nombre de victimes. Pour nous, et je le dis d'un point de vue pragmatique, et même du point de vue des colombes du camp de la paix, il est absolument indispensable d'empêcher cela.
La prise en tenaille du pays par le Hezbollah n'est peut-être qu'une partie d'un problème plus systémique. Le fait qu'au Liban, la politique soit tributaire de la religion. Ce qui fonctionne à Tripoli ne s'applique pas pour autant à tout le pays. Le Hezbollah occupe désormais une place qui fait de lui un acteur décisif sur les plans politiques, économiques et militaires. Et tant que le système politique et économique du Liban sera déterminé par les clivages confessionnels, que ce soit entre chrétiens et musulmans ou entre chiites et sunnites, le pays restera englué dans les crises. Et le fondamentalisme continuera de gagner du terrain.